10-19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport spécial Coupe du Monde. Comme c'est dit, 19h30, 21h. On a la chance de parler football durant 1h30. Et oui, la Coupe du Monde au Qatar où les choses sérieuses commencent. Voilà, il y a eu des matchs encore qui se sont déroulés cet après-midi avec les huitièmes de finale et notamment, on y reviendra avec les consultants de ce soir, la victoire au tir au but de la Croatie face au Japon, un partout à la fin du temps réglementaire et donc des prolongations. Et puis ce soir, le grand retour du Brésil. Retour pourquoi ? Parce qu'un certain Boula qui est avec nous, Neymar, qui fait son retour.
Bah écoute, on va lui souhaiter de faire un grand match.
Hein. On en profite, justement, on en profite. Boula est avec nous ce soir, comment ça va ?
Alhamdoulilah, tout va bien.
Impeccable ?
Ouais, à part notre... cher ami Bilal, il est couché chez lui avec des doliprane.
Ouais, qu'on embrasse.
Les gens, ils m'ont dit qu'il avait le Covid. Moi, je pense que c'est plus la grippe qu'il a. Et ouais. J'espère qu'il va retrouver sa santé parce qu'on a besoin de lui.
On l'embrasse très fort. C'est pour cela que le titulaire, le ballon d'or, Bilal n'est pas là. Donc on fait appel au coiffeur. On va essayer de faire mieux.
On va essayer de faire mieux que les numéro 2 du classement.
Les bleus contre la Tunisie.
T'abuses quand tu dis le coiffeur. Tu fais partie quand même des meilleurs éléments de Beurre FM.
Présentateur coiffeur. Alexis est avec nous ce soir.
D'une simplicité. Salut Claude, bonsoir à tous. Bah, ça va très bien. Écoute, on a eu la première prolongation du mondial tout à l'heure. Donc, ça nous a changé un petit peu des déroutes habituelles, des gros scores des derniers jours. Donc, c'était pas mal. Et puis ce soir, on attend le Brésil avec Neymar en espérant qu'il va pas se blesser. Parce que
sans oublier Chekib avec nous. Comment ça va, Chekib ?
Très bien. D'être là comme tous les soirs. On va certainement passer une superbe soirée avec les auditeurs, comme d'habitude.
Et on se retrouve juste après cette pub.
Time Sport revient dans un instant. 10-19h30, 21h. Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar. On embrasse Bilal qui nous écoute très certainement. Gros bisous à Bilal et qui doit être concentré à 20 minutes de la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud avec moi ce soir, Alexis Boula et Chekib. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de réagir au 01 53 48 3000. Allez, on vous donne la composition du match de ce soir entre le Brésil et la Corée.
Time Sport. Le JT.
Tiens Alexis, la composition.
Allons-y. On va commencer par les Brésiliens. Alors, dans le but, Alisson. En défense, Militao à droite, Thiago Silva, Marquinhos et Danilo. Dans le milieu, Paqueta, Casemiro et Neymar, bon, qui sera sans doute en 10. Et puis devant, Rafinha, Vinicius sur les côtés et Richarlison en pointe.
La composition de la Corée du Sud, qui serait capable de me la donner ?
Ben moi, c'est motivation. Ça reste du très classique. Les 5 Kim, ça veut dire le gardien Kim et les 4 défenseurs Kim. Très classique, très solide, très pro. Deux milieux plutôt défensifs, entre 6 et 8, Wang et Jang. Lee en 10, Wang à droite, Son bien sûr à gauche et Cho en pointe.
Ouais.
Une équipe classique qui est là, pas pour faire les figurants, qui prend le match avec vraiment ambition et qui sera peut-être, qui va tenter d'être la première équipe qui crée l'exploit. Parce que jusque-là, c'est vraiment les gros qui passent et il n'y a pas encore eu d'exploit de surprise à proprement dite pour la suite.
Boula, Alexis, rapidement le retour de Neymar dans le 11 brésilien.
Moi, personnellement, quand un joueur il sort d'une entorse sur un match comme ça,
T'es sceptique ?
Ah bah, je suis sceptique. Le gars, il sort d'une entorse. Il n'a pas dû s'entraîner pendant peut-être 2-3 jours pour que ça désenfle. Et après, je ne sais pas, quand tu regardes l'importance de Neymar sur le terrain, ça me rappelle Ronaldo. Ça me rappelle Ronaldo quand il a fait sa crise en 98. Et Nike, par rapport aux interventions, qu'il était obligé d'être sur le terrain. Alors,
après, tant mieux pour l'équipe de France ce soir-là, le soir de juillet 98.
Mais, c'est pas le grand Ronaldo. C'est bien d'avoir une réflexion un petit peu de certaines situations au niveau médical. Parce que c'est le foot, et après, t'as le médical.
Non, bah c'est sûr. Mais après, oui, c'est vrai, moi, je rejoins tout à fait Boula. C'est-à-dire que si tout se passe bien, qu'il arrive à le faire sortir à la 60e et que le Brésil mène, on se dira, bah, c'était plutôt une bonne idée. Mais si à la 30e, il se pète et que ça veut dire fin de mondial, là, je pense que Tite va avoir les oreilles qui vont siffler. Hein.
Exactement. Il y a même pire que ça, je pense, dans la continuité. Je pense qu'il faut préserver les joueurs et que quand un joueur, on le force à revenir trop vite, après, il peut avoir une fin de carrière précipitée. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu mets des antidouleurs ou quand la récupération est trop rapide grâce aux médicaments, grâce au kiné, etc., le corps paye l'addition quand même et le joueur commence à souffrir et c'est comme ça que certains se remettent facilement de blessures et d'autres, une blessure elle revient tout le temps, elle devient récurrente et leur carrière se termine ou leur niveau baisse.
Donc, mais après là, excuse-moi, Chakib, là je voulais rebondir sur ce que Boula disait aussi, c'est que effectivement il y a sans doute des volontés des sponsors, il y a une question de gros sous, mais il y a aussi la volonté du joueur. C'est-à-dire que je pense que Neymar, l'aboutissement ultime de sa carrière, c'est d'être champion du monde. Et je pense que si on lui propose soit t'es champion du monde et tu t'arrêtes demain, soit t'es pas champion du monde et tu continues ta carrière pendant 5 ans, je pense qu'il choisit de jouer la Coupe du Monde jusqu'au bout, de la gagner. Et que voilà, nous on a eu par exemple le cas de Umtiti, et ça, c'est tout à fait ce que tu disais, Chakib, c'est que voilà, il a forcé, bon, il est champion du monde, mais il rejouera sans doute jamais très très bien au football à cause de problèmes physiques récurrents, quoi.
Après, où je suis pas inquiet au niveau médical, c'est Christophe Baudot qui est le responsable du médical sur PSG avec Hakim Chalabi. À mon avis, je pense que les deux, ils doivent être à Spétard. Je pense qu'il y a une réflexion médicale entre les deux staffs. Mais bon, le problème, c'est que quand il s'est fait soigner Neymar, il s'est fait plus soigner. Il s'est fait plus soigner à l'époque, c'était au Brésil. Mais là, le fait que Christophe Baudot et Hakim, et que je connais très très bien Christophe, parce que il a fait de Bordeaux, il a fait Marseille, de Marseille il a fait à Lyon, c'était au niveau gestion médicale, c'était vraiment du top. Alors la chance que Neymar a, c'est qu'il a quelqu'un comme Christophe Baudot et Hakim Chalabi dans cette gestion médicale au niveau de la santé de Neymar.
Non, moi aussi, ce qui me gêne, c'est que c'est vrai que ce Brésil, bien sûr, Neymar, avec son Neymar, c'est pas la même chose. Mais ce Brésil actuel, au moment où on parle, n'est pas Neymaro-dépendant. Ça veut dire que, au moins, en tant que titulaire, il pouvait ne pas commencer avec lui. Et le mettre ensuite, là, le prendre dès le début, non seulement, comme tu disais, Alexis, il peut se reblesser dans la demi-heure, mais en plus, c'est beaucoup trop précipité et ils auraient pu être beaucoup plus solides au début pour tenir contre ces Coréens et ensuite leur entrée pour les terminer. Donc je suis vraiment très étonné, je trouve que c'est un grand risque pour l'immédiat et pour l'avenir, pour le joueur. Je suis pas du tout content. Et pour juste rebondir sur ce que tu disais entre le choix de la Coupe du Monde, etc., faut pas oublier que déjà au Brésil, et une autre légende du Brésil, la légende du Brésil, Pelé, avait gagné sa première Coupe du Monde et la deuxième, il l'a gagnée sur le banc. Il s'est blessé en deuxième match. Ce qui est possible, il peut être resté un peu plus longtemps sur le banc et gagner sa Coupe du Monde. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça... Parce que, et dernier élément, et après je vous laisse la parole, c'est que les joueurs sont jeunes, ils veulent toujours jouer, mais l'entraîneur et les responsables, ceux qui ont la maturité, c'est à eux de les brider, de dire, écoute, je sais que tu as envie de jouer, mais là, stop, c'est moi qui décide, tu joueras le prochain match. Si dès que le joueur dit, je vais jouer, tu dis, ok, je rentre, c'est plutôt le chef.
Non, mais il y a un truc qu'il faut savoir, quand les joueurs, ils sont au niveau santé, quand les joueurs, aussi tu as les entraîneurs, quand ils ont besoin de leurs joueurs, même blessés vont le faire jouer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'affût du résultat. Ils n'ont pas envie de... Et le fait que Neymar, ça rassure aussi le coach de savoir que Neymar, il est sur le terrain. Quelque part, c'est un joueur à marquer qui est très, très dangereux pour l'équipe adverse. Ah, et c'est
aussi une cible. On l'a vu le premier match contre la Serbie. Les Serbes, ils n'ont pas fait de cadeau. Hein. C'est-à-dire que premier ballon touché, première faute. Deuxième ballon touché, deuxième faute. Donc effectivement, c'est vrai que c'est un joueur qui peut rassurer tout le monde, y compris le coach, mais y compris le collectif. Mais c'est aussi une cible sur le terrain. Dans les premières minutes, tu sais qu'il va prendre des taquets. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, si j'étais coréen, forcément, ce serait ma première cible du match.
En tout cas, pour clôturer rapidement, parce qu'on va passer notamment à l'équipe de France qui s'est imposée hier soir. Bon voilà, en tout cas, coup d'envoi 20h, restez en tout cas à l'antenne. On est avec donc chez l'équipe Alexis Boula, donc on va vous faire vivre ce huitième de finale de Coupe du Monde qui s'annonce quand même assez intéressant en termes de jeu, parce que les Coréens ont montré des arguments intéressants.
Exact, les Coréens, comme je disais tout à l'heure, ils sont vraiment venus avec une pure, on va dire, une ambition scientifique. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont de l'ambition, mais tu vois bien qu'il n'y a pas le travail derrière, qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Mais les Coréens, quand ils sont venus, ils viennent vraiment pour essayer de décrocher le mondial. Ils savent qu'ils ne sont pas du tout favoris et qu'ils ont une très légère marge de manœuvre, mais ils savent que c'est possible. Et donc, ils sont structurés, on dirait vraiment une armée bien, bien rodée, et ils sont là pour essayer d'aller jusqu'au bout. Et là, on va voir contre le Brésil, ils ne vont pas jouer petit bras. Ils vont vraiment être solides et offensifs quand qu'il le faut avec un jeu décomplexé. Et juste pour revenir, pour clôturer sur Neymar, c'est pas que les gens veulent le taper seulement. C'est que c'est vrai qu'il a un jeu. Il est frêle physiquement. Et il a un jeu qui fait qu'il est tellement rapide que même que tu essaies de prendre la balle, tu prends sa jambe. Ouais. Et c'est pour ça que les arbitres français, quand il était là, ils disaient, oh, c'est une danseuse, ils tournent sur le terrain et tout. C'est une manière de se protéger. C'est pour que les arbitres sifflent. Parce que quand t'es frêle comme ça et ton jeu appelle aux fautes, si tu roules pas 10 fois et que les arbitres ne te protègent pas, ta carrière, elle s'arrête aussi sec et ce serait dommage pour tout le monde.
Ouais, mais quand tu parles de Neymar, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Neymar, ça serait plus facile qu'il donne son ballon avec ses qualités et avec son talent. Parce qu'il a toutes les qualités. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas jouer avec les autres. Il a un côté individuel dans le jeu. Quand je regarde des joueurs comme De Bruyne, tu sens que c'est la finesse du collectif et tout. Et le problème, c'est qu'il a la qualité autour pour jouer dans le collectif. Parce que le match d'avant, il n'a pas joué. Et je peux te dire qu'il y avait une fluidité de jeu, c'était facile. Alors, plus Neymar, s'il est dans cette collectif, il sait décrocher pour venir chercher les ballons et faire le jeu, c'est des joueurs très, très dangereux.
Non, mais c'est bien sûr. Mais c'est vrai que Neymar et KDB, à l'origine, Neymar, il est tellement fort qu'il peut prendre tous les profils, mais à l'origine, c'est pas du tout le même profil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes qualités techniques. Neymar, c'est vraiment un dribbleur, c'est un artiste. KDB, il a la vista. Mais maintenant que Neymar, il est replacé en 10, ce que j'aurais voulu qu'il soit fait pour le Paris Saint-Germain, on en parlera après le mondial, mais je pense que là, on voit bien que Mbappé avec la France, il est meilleur à gauche. On voit bien que Neymar, maintenant en 10, il devient très bon, et Messi à droite, et que comme ce qu'il appelait Mbappé, le pivot gang, il faut mettre une pointe, par exemple Moïse Kean, au lieu de l'envoyer à la Juve, il fallait garder. Et là, si on aligne les trois comme ça derrière, au lieu de mettre Mbappé en pointe, on aura un meilleur Paris Saint-Germain. Mais bon, c'était juste pour la parenthèse. Mais en tout cas, Neymar, effectivement, c'est pas du tout le même jeu que KDB, mais il peut devenir plus, moins selfie et plus distributeur et lâcher le ballon plus tôt.
Le Brésil, vous y croyez ou pas?
Pour la victoire finale?
Victoire finale, j'entends beaucoup de...
Ils ont eu quand même...
On entend beaucoup parler, mais
c'est vrai, à titre personnel, moi j'y croyais pas déjà avant le début de la compète, et ce que j'ai vu depuis le début, ça a pas forcément de tendance à me rassurer. J'ai trouvé les pires difficultés contre la Suisse ou contre le Cameroun. Contre la Serbie, ils ont dominé de A à Z, mais bon, les Serbes ont pas opposé non plus une résistance qui restera dans les annales. Donc non, moi je reste sur ce que j'avais dit au début de la compète, je les vois moins forts que la France, moins forts que le Portugal, moins forts que l'Angleterre, voilà, mais après...
Moi je pense qu'on parle quand on parle de Neymar, mais je pense qu'au Brésil il y a une autre équipe autour quand même. Il y a des jeunes de qualité, moi j'ai vu deux, trois joueurs exceptionnels qui sont plus discrets, qu'on les connaît moins, mais tu sens qu'il y a une petite révélation, comme le petit Richardson là, qui met les deux buts au
Tottenham.
Qui met les deux buts. C'est des joueurs, on n'en parle pas, ils sont pas médiatisés. Mais tu sens que c'est une équipe, parce que regarde, là, il a mis 2 buts. L'autre fois, c'est Casemiro qui les sauve. Casemiro, c'est quand même une figure du football brésilien, une figure du Brésil et du monde, ouais, parce que ça fait partie quand même des grands joueurs. Et quand tu regardes l'efficacité, je trouve qu'il y a un gros réservoir brésilien, où qu'à un moment donné, tu peux dire ils ont un groupe de qualité. Maintenant, après, faut savoir que t'as le football qui a évolué, comme on va voir ce soir au niveau des Coréens. Je pense que c'est des joueurs qui sont disciplinés dans le jeu, tactiquement ils sont bien en place, et voilà les réglages. Je pense que les réglages tactiques, les Brésiliens l'ont pas comme aujourd'hui le nouveau football.
Merci Boula, n'hésitez pas à réagir au 01 53 48 3000 juste après la pub.
Time Sport revient dans un instant. 10-19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la deuxième partie de Time Sport sur Beurre FM spécial Coupe du Monde 19h30, 21h avec Alexis Boula, chez Kip qui sont au taquet. On est à 5 minutes du coup d'envoi entre le Brésil et la Corée. Mais tout de suite, on va parler de l'équipe de France.
Time Sport. Time Sport. Les pourparlers.
C'était hier à 16h. Les Bleus se sont imposés sur le score de 3 buts à 1 face à la Pologne grâce à des buts de Giroud. Et oui, on y reviendra. Boula, un doublé de Mbappé contre un but de Robert Lewandowski sur penalty. Nos Bleus sont en quart de finale. Un rappel quand même, il faut savoir que sur les dernières compétitions, lorsqu'on était amené à être champion du monde, on ne passait pas le premier tour. Donc bravo à nos Bleus.
Oui, bravo à nos Bleus. Et surtout, hier, on a vu deux gars quand même qui sont entrés dans la légende. Giroud qui a été décrié, critiqué depuis des siècles et tout.
On parlait de ne pas le prendre au mondial. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens.
Parce que j'en parlais
c'est
ici.
C'est terrible.
Et je m'étais fait démonter même quand j'avais dit que Dédé allait l'appeler, qu'il allait même titulariser. Maintenant, il ne va même pas l'appeler et tout. Et non, bien sûr. Et Giroud, c'est quelqu'un, la presse aussi, elle l'a démonté alors que c'est quelqu'un qui a plein de qualités. Depuis Montpellier, moi, que je le trouve fort. Depuis Montpellier, même à Chelsea, il se faisait démonter. Le Tuchel ne le faisait plus jouer en Ligue des Champions, alors que c'était le meilleur buteur Ligue des Champions de Chelsea actuel. Il ne le faisait pas. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Milan AC, il faut se rappeler qu'ils l'ont acheté pour 1 million d'euros. Un million d'euros. Il leur met plus de buts que les gens qu'ils achètent 50 ou 70 millions d'euros. Et il a battu un record, quand même, le record de tous les temps d'équipe de France. Donc, il faut lui rendre hommage, mais pas qu'aujourd'hui. C'est depuis 10 ans. Moi, je me rappelle que d'autres médias, il y a un an et demi, ils demandaient à Deschamps de lui offrir, de lui célébrer son jubilé avec l'équipe de France. Moi, je trouvais ça ahurissant. J'avais même tweeté pour dire vous êtes fous quoi. Et là, finalement, on voit qu'il est toujours présent et il est historique. Et après, Mbappé, c'est vraiment le mec à part. On a vu que justement, là, on parlait, est-ce que le Brésil est favori ou pas et tout, et que le Brésil n'était pas Neymar-dépendant, mais on voit que l'Argentine, sans Messi, elle serait pas en quart. Et la France, peut-être sans Mbappé, Kylian, voilà, elle serait peut-être. C'est des bonnes équipes, solides, etc. Mais là, encore une fois, hier, on a vu Mbappé passe D, Mbappé est doublé. Sinon, peut-être on serait sorti 1-0 contre la Pologne. Et c'est ça, et c'est ce qui a manqué aussi. On en parlera tout à l'heure au Sénégal, qui aurait peut-être eu les armes contre l'Angleterre avec Mané. Tu joues sans Mané, tu perds contre l'Angleterre. Quand tu joues sans Mané et sans Gana Gueye, tu perds 3-0. Et si tu joues sans Mané, sans Ganagay et sur Koulibaly, tu prends 5-0.
On y reviendra sur Angleterre-Sénégal. Boula, j'ai envie de t'entendre, Giroud.
Giroud, c'est... Moi, je l'ai connu quand il était à Istres. Il a pris un carton rouge au Paris AC. C'est un mec qui s'est... Parce que quand on le voit comme ça, on voit on le voit comme le petit Olivier, tu vois, blondinet, tranquille. Mais mentalement, c'est toujours été costaud. C'est un mec qui a du caractère. Il se laisse pas faire sur le terrain. Il a toujours été à l'image de ce qu'il est en train de tout ce qu'il a produit de sa carrière. Et comme il dit, c'est Beka c'est là où il a raison. C'est qu'on lui a rentré beaucoup dans la gueule, tout ça. Mais il y a un mec qui est très précieux pour lui, tu vois. Et à mon avis, je pense que il lui rend. C'est Didier Deschamps. Il l'a mis de côté, mais quelque part. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en termes d'image. Il a jamais critiqué dans la presse, dans les choix. Pas comme tu sens que c'est pas un mec. Tu sens que c'est un mec qui est propre, qui est clean. Même pour le problème avec Karim Benzema, quand tu vois le problème qu'il a eu avec Karim, le problème qu'il a eu avec Kylian. Et ce qui est bien, c'est que c'est Kylian qui lui donne le but. Et tu vois quand il le prend, tu sens qu'il n'en veut pas. Il y a le côté humain. Tu vois, c'est des footballeurs, mais quand même dans ces contacts, dans ces rapports, c'est vraiment une complicité. Et puis moi je trouve ça formidable, surtout quand tu vois ça dans le sport. C'est bien. Après, moi je trouve que Olivier il a apporté beaucoup en équipe de France. Et il y a un mec qu'il faut remercier, c'est Didier Deschamps de lui avoir donné toujours cette confiance et c'est moi je pense que ce travail en équipe de France, il est fait par quelqu'un de qui connaît très bien son boulot. Il n'est pas, tu prends un mec comme Didier, il n'est pas géré par la presse, il n'est pas géré par les médias. C'est lui qui gère son groupe, c'est lui qui gère son truc. Après, il y a des choix qui sont faits. Moi, où il y a des joueurs que j'aurais peut-être bien voulu voir, mais il y a un truc que tu ne peux pas lui dire. Tu gagnes la Coupe du Monde, tu es en finale du championnat d'Europe, tu es en quart, tout le monde le voyait se casser la gueule. Après, quand Benzema il s'est blessé, tout le monde voyait, ouais, c'est zéro, l'équipe de France ou quoi que ce soit. Mais il y a un vrai chef d'orchestre. Karim, il est blessé, certes, mais il y a quand même quelqu'un, c'est, pour moi, c'est l'homme de la situation, dans la gestion. Quand tu vois ce qui s'est passé en Afrique du Sud, impossible de gérer ces gars, ce groupe, impossible de gérer ce groupe. Et quand tu vois
après l'entraîneur, comme tu sais exactement ce que tu dis, c'est que l'entraîneur en 2010, il aidait pas trop non plus, hein, sans vouloir tirer sur l'ambulance. C'est vrai que là on a un vrai sélectionneur avec une vraie mentalité, avec aussi le fait que tout reste à l'intérieur du vestiaire et qu'il y a pas d'idée. Et puis il est pas, voilà, le problème de Dominic aussi, c'est qu'il était un peu mystique. On comprenait pas toujours où il voulait en venir. Voilà, souvent des surprises dans les listes ou des demandes en mariage assez bizarres quand on se fait sortir de l'Euro. Voilà, donc bon,
il était pas dans le sujet. Tu sens qu'il y en
voilà,
a un.
Voilà, c'est ça, c'est
puis,
ça.
Je suis d'accord avec toi, Alexis. Tu sens qu'il y a un mec qui est là, qui fait n'importe quoi, Domenech. Non, mais c'est vrai. Pourtant, c'était cette finale de Coupe du Monde qu'il a eue. Il a peur, mais peut-être il a peur. Il lui manquait quelque chose.
Ah bah oui.
Je parle du coach, hein.
Oui,
parce que
sûr.
les gens, il faut qu'ils comprennent que le coach, il a un rôle qui est le plus important dans un groupe. Parce qu'on parle des joueurs, on parle de Neymar, on parle de ceci. Mais si t'as pas un coach pour prendre la température sur tout le monde, moi, à mon avis, je pense que la chance qu'on a, c'est cette richesse de 98. Quand tu vois que Zidane, il gagne 3 Ligues des Champions, quand tu vois Patrick Vieira, quand tu vois Lolo qui revient à Lyon, tu sens que c'est pas des coachs qu'on sont mis en avant. Quand tu vois la mentalité de Lilian Thuram, quand tu vois la mentalité de Saïd, tu vois ce groupe de France 98, c'est le travail, la rigueur, c'est des bosseurs. Il y avait pas de déboire, il y avait pas d'histoire, il y avait pas de
problème. Ou alors on le savait pas, quoi. En tout cas, ça restait dans le vestiaire. Tu vois toutes les histoires d'équipe qu'auraient pu sortir. Je pense qu'elles sont restées aussi dans le vestiaire ou dans des petits cercles qui font que c'était pas comme en 2010 en une de l'équipe, quoi. Parce que là, ça.
Oui, parce que il y a eu un reportage, qui a montré qu'il y a eu quand même des tensions. Il y a eu aussi des grands joueurs qui auraient pu faire le mondial comme Ibouba, etc.
Brimba, ouais,
voilà, et d'autres joueurs qui ont été éliminés justement par Deschamps, le joueur et capitaine d'équipe. Ils ont eu une altercation avec lui en club ou avec Desailly et il lui dit c'est comme ça que tu parles avec ton capitaine, ouais. Alors que là ils étaient en club, c'était pas son capitaine. Donc eux aussi ils ont eu leurs histoires, mais c'est vrai que l'école Aimé Jacquet, ça reste l'école Aimé Jacquet, on lui doit, je pense, en équipe de France en tout cas, on lui doit tout, parce que Deschamps c'est quand même le fils spirituel d'Aimé Jacquet, comme Pep Guardiola, de Johan Cruyff. Et Deschamps aussi, il a eu aussi la chance d'être formé aussi par les grands coachs italiens. Donc il a eu Aimé Jacquet comme mentor et les coachs d'Italie et de la Juve et tout. Ça, et c'est quelqu'un de très intelligent, donc il a tout pris et maintenant il est en train de traduire tout ça et il tient vraiment son équipe. Et comme Boula l'a très bien dit, bien sûr, quand tu prends un bateau, et il faut laisser le capitaine le plus important. Si le capitaine il t'envoie vers l'iceberg, même si t'as des super moussaillons, vous êtes tous morts, tu vois. Et donc et l'entraîneur il fait ses choix sur le terrain, la compo, le coaching, parce que c'est un manager, c'est un meneur d'hommes. Et derrière les hommes il y a leurs femmes, il y a leurs familles, il y a leurs agents.
Mais ça vous faites bien de le souligner, parce que c'est vrai qu'on en parle pas assez, comme il disait Boula. Nous on voit que principalement l'aspect sur le terrain. Bon, il faut savoir qu'un joueur qui est sur le terrain, quand t'es à l'opposé du banc, t'entends pas grand chose quand le coach y parle et tout. Donc en vérité, le rôle du coach pendant le match vis-à-vis des joueurs, c'est pas non plus à part les 15 minutes à la mi-temps, mais c'est tout ce qui se passe avant, c'est tout ce qui se passe dans la préparation, c'est tout ce qui se passe dans l'idée d'amener et de faire une équipe, de faire un groupe. Et sur ça, Deschamps, il est extraordinaire.
Notre réalisateur, si je peux me permettre, Anto, qui veut réagir.
Merci.
Il adore l'équipe de France.
Un grand fan. Non, mais pour revenir sur Giroud, le problème, c'est qu'il a été tant décrié. Tout le monde a toujours voulu lui mettre des balles dans les pieds et dans la tête. À chaque fois. On l'a bien vu encore la dernière Coupe du Monde, ce qu'il avait raté contre la Belgique et compagnie. Et moi, je pense que là, pour lui, Giroud, c'est très bien déjà d'être meilleur buteur. Félicitations à lui et à l'équipe de France. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qui fait penser un peu parfois à Balotelli dans ses attitudes, qui court pas beaucoup, qui des fois, qui lâche des frappes. On se rappelle contre la Suède qui a comme été un magnifique but, je crois en 2016. Et on l'a bien vu, c'était, ça a fait mouche. Et là, Giroud, ce qu'il fait, ça fait mouche pareil. Et c'est un joueur qu'il faut laisser sa chance. On laisse passer sa chance.
Anto, il y a un truc, c'est bien que tu parles de Giroud, mais il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que Giroud, sur l'appel de balle et sur la frappe, il sait quand il va faire l'appel et il sait quand il va faire la frappe. Là, c'est son intelligence de placement qui fait la différence. C'est les anciens attaquants où tu, mais la preuve, regarde, il bat le record. Pourquoi il bat le record? C'est qu'il a une intelligence. Parce que c'est un petit peu, tu prends Karim, il a une intelligence de placement. Tu prends pas mal de joueurs, ils ont des intelligences de placement. Ils ont pas besoin de dribbler ou truc, ils ont juste besoin de faire l'appel. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Et je suis content que tu parles comme ça de Giroud. Parce que faut pas croire que Balotelli, il a peut-être plus de talent, mais après,
le talent, joue avec un cerveau. Le talent, ça fait pas tout.
Exactement. Tu joues avec un cerveau, tu joues pas avec un œuf de Pâques dans le monde. À un moment donné, Balotelli, on lui a donné un, je sais plus combien de chances, comme Ben Arfa, on lui a donné, je sais plus combien de chances. Après, à un moment donné, le joueur faut qu'il soit d'une éducation, une discipline de jeu. Tu le vois, même Zizou, quand il jouait, il avait le respect de son collectif, il savait donner. Deschamps, il savait ce qu'il fallait qu'il fasse sur le terrain. Il avait cette lecture de récupérer un ballon. Il savait qu'il pouvait pas dribbler trois, mais il savait que dans l'intervalle où il fallait faire la passe. Il a été dans l'un des plus grands clubs italiens avec un des plus grands coachs, c'est Lippi. Et puis après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que la Juve, quand ils sont descendus en D2, c'est lui qui les a fait remonter, ouais, et ils lui ont dit: pas de problème, tu restes, mais c'est nous qui faisons l'équipe. Comme il est intelligent, Didier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous n'allez pas me faire faire des bêtises sur des joueurs que vous voulez. Moi, j'ai une façon de jouer. Tout ça, c'est pour ça qu'il est parti. Et non, tu regardes, c'est aujourd'hui, c'est pas le genre de mec. C'est pas le genre de mec. Et après, quand il parle de Jacquet, il avait tout compris avec qui fallait confier cette tâche avec le coach. C'était le second à Jacquet. Mais le Jacquet, quand il donnait ce pouvoir à Didier, c'est parce qu'il y avait un football tactique de lecture mondial européen que Didier avait déjà assimilé. Et après, moi, l'histoire de Hibou, je suis au courant parce que Hibou m'en a parlé.
Hibou, c'est Ibrahimba.
Et Ibrahimba, il m'en a parlé. Après, qu'est-ce que tu veux? Il faut une certaine discipline. Et Didier, il attachait beaucoup d'importance sur une certaine discipline. Par rapport à un truc, c'est normal, c'est le capitaine. Quand t'es capitaine, t'as un moment donné, t'as un message à faire passer. Un capitaine, c'est pour moi, c'est le second entraîneur. Et aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent pas, ouais. Non, c'est logique. Et puis Zizou, il aurait fait pareil que Didier. C'est comme une fois,
Deschamps, faut pas oublier non plus que même en tant qu'entraîneur, il y a eu la Juve, mais il y a eu aussi Monaco, il emmène quand même une équipe, bon, qui n'a rien d'extraordinaire en finale de la C1. Oui, mais c'est parce qu'elle y est allée. Mais tous les scores qu'ils mettent, je me souviens à la Corogne quand ils battent la
Trois.
Voilà, tu vois, genre tout ça, on n'aurait pas pu le prévoir. Jamais on se serait dit ça va se passer comme ça. Donc c'est ça aussi. Il va à Marseille, il gagne aussi. Donc il commence à avoir une histoire.
Mais ça, c'est une équipe qu'il a pris.
Ouais, bien sûr.
Il a pris un des meilleurs. Et tu regardes à Marseille, il a pris un môme de 22 ans, ouais. Un des meilleurs latéraux droits espagnols. Personne ne le connaissait.
César Azpilicueta.
Voilà. Et qui a fait une carrière de.
Extraordinaire.
Voilà, qui a fait une carrière de sonneur. Après, faut pas oublier que quand il va chercher un joueur, il sait qui il va chercher. Tu prends Mamad Niang à Marseille. Ouais. C'est le seul mec qui voulait pas qu'il parte. Et c'est le seul mec qui l'a renégocié au salaire.
Je crois que si je peux me permettre, je crois que ça a bougé. Ça a bougé du côté de. Eh oui. S'activer du côté de 8e de finale ce soir, le coup d'envoi 20h entre donc la Corée du Sud et le Brésil. Que s'est-il passé, messieurs?
En réalité, notre débat est peut-être même plus passionnant que le match.
Il y a un but, ouais, mais priorité quand même au fil rouge, il se passe quelque chose sur le terrain, bien sûr. Chez qui on y va?
Maintenant, chez RMC. Hein.
Oui, donc 1-0 pour le Brésil. Il vient de marquer à l'instant Vinicius Junior à la 7e minute. Donc voilà, déjà, je dirais 1-0 pour le Brésil.
Voilà, c'est ce qu'on disait. Au Brésil, il y a Vinicius Junior qui est enfin un concurrent direct à l'avenir d'un Mbappé, c'est pas n'importe qui. Richarlison aussi, il est à son prime. Richarlison, t'as Rodrigo qui est à son prime, t'as Anthony qui est à son prime, t'as Rafinha qui est à son prime, t'as Casemiro qui veut pas vieillir,
les
qui Paqueta, est là.
Les
voilà,
Guimarães,
t'as Paqueta qui est voilà à son prime, Guimarães qui a explosé, t'as la défense derrière Militao, qui veut pas vieillir, qui est grave solide, t'as deux gardiens de but de classe mondiale.
Est-ce que ces mecs-là sont meilleurs que Ronaldo, Ronaldinho?
Ah, Rivaldo, cette génération, mais justement c'est ça.
Adriano.
Après c'était pas non. Moi, c'est mon enfance.
Non,
mais
j'entends
l'enfance,
c'est pas ça.
J'entends dire que c'est l'une des meilleures équipes brésiliennes de l'histoire. Moi je demande, est-ce que cette équipe-là est meilleure que
Ronaldinho?
Socrates, Garrincha.
On le dira à la fin du mondial parce que elle doit faire ses preuves. Si elle fait ses preuves et qu'elle gagne la Coupe du Monde, on pourra mettre le débat sur la table. Tant qu'ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde, on ne peut pas. Mais la force du Brésil, effectivement, c'est de génération en génération, ça sort des générations de fous. En 98, c'était une génération de malades, mais ils sont tombés contre une équipe de France solide et un génie de Zidane. Ce n'est pas passé. 4 ans après, ils ont pris le mondial. Et 4 ans après encore, ils ont sorti une génération de malades, mais ils se sont fait taper par de nouveau Zidane et Henry. Et après, de nouveau.
Zidane surtout, hein.
Donc voilà, on verra la fin du mondial.
Et l'entraîneur du Brésil, il avait dit, si j'avais un joueur à titulariser, le plus ancien, comment il s'appelle,
Zagallo,
il a dit, si j'avais un joueur à naturaliser brésilien, c'était Zidane que j'avais naturalisé dans le monde.
Mais d'ailleurs, en 2006, il y avait un seul Brésilien pendant le quart de finale sur le terrain, c'était Zizou. Mais pour revenir, juste un dernier mot sur Giroud. C'est vrai qu'on oublie souvent de dire qu'il a gagné partout où il est passé. Il a quand même fait gagner Montpellier, il a gagné à Arsenal, il a gagné à Chelsea, il est champion l'année dernière avec le Milan. Donc donc c'est un joueur,
des plus grands artisans.
Ah ouais, non, bien sûr. Et puis voilà, c'est plus de 100 buts avec Arsenal. Enfin voilà, là maintenant 52 buts en équipe de France, plus de 115 sélections. Je sais pas combien il est exactement, mais donc franchement c'est
117 sélections.
Bah, voilà. Donc franchement, il mérite tout notre respect.
Et Thierry Henry 123.
123, exactement.
Ouais, et Lloris, je crois, 142.
Ah, Lloris, il a égalisé ou battu Thuram?
Il a battu Thuram.
Après, moi, ce que je trouve regrettable hier dans le match, c'est l'arbitre quand même, parce que le but de Giroud était magnifique et je comprends pas pourquoi il a été annulé le but. Soi-disant, faute
c'est,
sur le gardien.
C'est une faute sur Chesney.
Ouais,
sur Chesney,
mais...
pardon. Pour moi.
Non, mais il n'y a pas faute.
Si je peux me permettre, j'ai vu que ça s'est un petit peu enflammé par rapport à ça. Moi, je vois quand même Varane qui fait quand même bien l'ascenseur, et y a rien à dire. C'est vrai qu'on peut être frustré en tant que supporter, mais moi, j'ai vu le ralenti qui, enfin, on l'a tous vu, il s'appuie quand même, il y a même pas.
Ça siffle ou ça siffle pas.
Je t'assure que sinon, on prend ce but-là et que c'est les premières.
Mais quand tu montes pour aller faire la tête et tu l'appuies, le mec,
c'est le gardien, donc là, tu peux pas.
C'est le beau geste derrière qui est beau.
Enfin, si en quart de finale, on se fait éliminer contre l'Angleterre sur une action comme ça et que l'arbitre siffle pas, je serais le premier, toi aussi, je pense, à hurler.
Rapidement. Le top 10 des Bleus en équipe de France. Giroud, Henri, Griezmann, Platini, Benzema, Trezeguet, Mbappé, Zidane, Fontaine, Jean-Pierre Papin. Les amis, combien de ballons d'or dans ce top 10?
Alors,
combien de ballons d'or?
T'as Papin?
Zidane 1, Papin
5.
Zidane
1, c'est bon. Platini
3.
Platini 3.
6 avec Benzema.
Ah oui, d'accord.
6 avec Benzema.
Combien de joueurs?
Papin,
Zidane,
et Benzema.
Benzema,
5 ballons d'or.
C'est pas mal, hein.
Oui, c'est
beau.
Il y a un truc qu'il faut remercier, c'est le football amateur.
Sans ça, il n'y aurait rien.
Exactement.
Sans ça, il n'y aurait rien.
Bien sûr.
Allez, on se retrouve dans quelques instants.
Time Sport revient dans un instant. 10-19h30, 21h. Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour sur Time Sport sur Beurre FM, 19h30, 21h, spécial Coupe du Monde. Et puis bah voilà, on embrasse toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, ce lundi, 5 décembre. Le score a évolué du côté
2-0,
du Qatar.
2-0 pour le Brésil, but de Neymar sur penalty. Donc là, ça semble bien mal embarqué pour nos amis coréens.
Ouais, avec donc Alexis que vous venez d'entendre, Boula et Chekib, match terminé, Brésil Corée,
non,
c'est bon,
jamais,
heureusement c'est du football, mais là franchement je
non là il va y avoir une mi-temps, à la mi-temps les joueurs vont parler, le coach va parler, il y a Son qui est quelqu'un qui peut changer une situation, ils vont parler, ils vont dire attendez, là on a 45 minutes pour rentrer dans l'histoire de notre pays, tout le... ils vont se remotiver. Après bien sûr le Brésil a déjà un pied et demi dans la suite. Mais il faut jamais enterrer la peau
d'ours. Ah non, il faut pas.
On sait jamais, parce que les Coréens, ils sont pas venus pour faire les touristes et ils l'ont déjà prouvé.
Avec la qualité qu'ils ont au Brésil, quand tu mènes 2-0, je pense que si ils gèrent bien la situation, il y a pas photo.
Oui, ça va être.
Parce qu'il y aura encore plus d'espace, ils vont vouloir revenir au score déjà, après ou égaliser, mais quoi qu'il arrive, il y a des espaces qui vont s'ouvrir et ça va être encore plus facile que le Brésil.
Ça va être dur.
Voilà. Allez, on passe au bleu.
Time Sport. Les pourparlers.
Les pourparlers, on revient donc sur la victoire de l'équipe de France, vainqueur hier après-midi de la Pologne 3-1. Giroud, Mbappé deux fois contre Lewandowski. Boula, tu voulais parler de certains joueurs, certains jeunes joueurs.
Il y a des révélations.
On se posait des questions et finalement.
Tu prends Rabiot, on le connaît, mais il y a des révélations comme Upamecano qui fait une très 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 bonne début de Coupe du Monde. Et après t'as Tchouaméni qui est une discipline hors pair qui est différent du joueur qu'il est à Monaco ou un truc tu sens qu'il est dans il est bien dans un registre ou qui récupère d'une simplicité de jeu parce que les gens j'ai vu que même dans l'équipe ils le critiquaient un petit peu parce que c'est pas le Tchouaméni que tu vois mais la différence c'est qu'avec Deschamps tu joues dans des tactiques bien truc où à un moment donné cette simplicité de jeu de récupérer et de donner pour que ça aille un peu plus vite dans le jeu et après c'est quand même des joueurs il y a un joueur qui est exceptionnel où je pense que on a oublié de parler de lui on parle de Kylian mais c'est Hugo Lloris après t'as cette aura d'intelligence toujours concentrée un peu des gens à un moment donné on
le il a failli faire une connerie hier quand il relâche le ballon sur la tête de Lewandowski sur la sortie aérienne mais il s'est rattrapé.
C'est bien qu'il dit qu'il s'est rattrapé parce qu'il y a un truc des fois il y a Hugo fait des par contre il fait des arrêts à des moments de jeu
il perd jamais le fil,
il est déterminé et puis quand même ça reste quand même aujourd'hui le joueur le plus sélectionné.
Ah oui.
Après, en termes d'éducation, de discipline, et en plus de ça, c'est un joueur qui a une façon, d'être, d'une simplicité. À part sa petite déboire, mais ça c'est normal. Il avait voulu faire une petite soirée ce jour-là en Angleterre, c'est rien du tout. C'est des choses qui arrivent. Et puis tu sens que c'est même mentalement, c'est quand même solide.
C'est ce que je te disais, c'est que même quand il relâche le ballon et tout, il perd jamais les fils. Il y a des gardiens. Je me souviens là en première partie de saison, c'était le Sporting Marseille où le gardien après avoir fait sa première erreur, enfin s'écroule totalement et tout. Lloris, il peut faire une connerie même dans un match, il va jamais perdre le fil, il va se remotiver, et ça c'est vrai que dans le but ça, enfin voilà, franchement c'est peut-être, après je sais pas, moi j'aime bien Fabien Barthez, mais c'est peut-être le plus grand gardien qu'on a jamais eu en équipe de France.
Oui, comme on dit, ces derniers remparts.
Oui, exactement, déjà il n'y a pas de grande équipe sans grand gardien, c'est clair, et c'est vrai que Lloris, on parlait tout à l'heure de Giroud comme exemple pour les jeunes, Lloris aussi, c'est un exemple à tout point de vue, l'homme, le sportif, sa longévité, son sérieux, sa concentration, capitaine, tout. Donc c'est vraiment.
Puis il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, Hugo Lloris, sa position de jouer cette Coupe du Monde au Qatar a respecté un petit peu les valeurs du pays, ou qu'à un moment donné, ça n'a pas plu aussi à des gens, où je l'ai trouvé très humain et très ouvert à certains pays qui ont une façon de vivre. Il y a un truc. Et en plus, c'est bien que c'est Hugo Lloris qui le fait. Et moi, c'est tout à son honneur de respecter un petit peu les valeurs du pays, comme nous, on doit respecter aussi les valeurs de la France.
Exactement.
Par rapport à ça. Voilà.
Moi, il y a un truc. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense que les deux équipes, on n'a pas pu vraiment en parler, mais moi, comme je suis beaucoup les médias étrangers, les deux équipes qui en ont plus eu de pression par leur gouvernement et leurs médias pour faire de la politique au Qatar, c'est le Danemark et l'Allemagne, qui, sur le papier, étaient armés pour aller beaucoup beaucoup plus loin. Et finalement, on leur a tellement bourré le crâne, parce que c'est des joueurs de foot, c'est pas des politiques. Et tellement ils leur ont dit, ouais, il faut pas y aller, ou bien il faut défendre et tout, qu'ils se sont écroulés tous les deux. C'est pas pour rien. Et Lloris, il a très très bien fait.
Je vais revenir sur ce qu'a dit Alexis. C'est certainement Lloris, le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette table?
Non, lorsqu'on sait
qu'on a eu Fabien Barthez, Joël Bat,
Bernard Lama.
Bernard Lama, mais qui n'a peut-être pas gagné aussi.
Ouais, Alexis,
c'est un vrai sujet,
Non, mais c'est un vrai sujet, mais déjà d'une, Alexis, il a raison, parce que tu veux se dire, c'est le gardien qui a été le plus impressionnant. Maintenant, certes, il est à Tottenham. Moi, je pense qu'il méritait un grand club.
Ouais.
Je connais pas son agent, mais je pense que son agent n'a pas su, à un moment donné, le mettre où il fallait. Mais il est tellement discret, il est tellement rigoureux, parce que c'est pas évident de jouer à Tottenham. Parce qu'il n'a pas une équipe. Il n'a pas une équipe à faire, mais c'est que des arrêts qu'il fait. Il fait plusieurs arrêts.
Ils subissent beaucoup.
Pourtant, c'est un gardien. Tu le mets au Real. Au Real, t'as quoi dans le match? T'as peut-être 2-3 arrêts à faire, mais dans les moments très importants. Et je pense que c'est un mec qui méritait un statut de Manchester United, du Real, du Bayern de Munich. Je dirais même, pour moi, il vaut même plus que le gardien de l'équipe d'Allemagne.
Moi, quand je dis c'est pas le plus grand, c'est parce que pour moi, c'est comme les affranchis. Tu sais, quand tu atteins une étape, tu fais partie d'une catégorie, d'un groupe. Et après, une fois que t'es dans le groupe, je veux pas voir qui est le plus fort entre lui et Bats et Barthez. Chacun a son époque. Et dans son époque, c'est le roi. Et c'est pour ça que moi, je veux pas le comparer aux autres gardiens. C'est tous des numéros 1 pour moi, et voilà.
Tu veux pas le comparer, mais la question, elle était plus à Claude, est-ce que c'est le gardien qui a marqué l'histoire des gardiens de but en France? Oui, pour moi.
En équipe de France?
À mon avis, c'est le gardien qui a marqué l'histoire en équipe de France.
Plus que Fabien Barthez?
Plus que Fabien, ouais. Parce que Fabien, la différence, c'est que t'as le Fabien Barthez de Marseille, t'as le Fabien Barthez de France 98, mais la différence, c'est que Fabien, il avait une des plus grosses équipes de, mais moi, pour moi, Fabien, je l'ai connu sur des matchs clés, mais quand il était à Manchester United, c'était pas...
Non, il était, c'était Fabulous Fab. Ouais. Mais après, pour 2-3 erreurs, il est devenu Calamity Fab.
Mais quand tu dis 2-3 erreurs, tu vois la différence entre Fabien et Hugo? Hugo, c'est quelqu'un, dans sa vie, qui est quelqu'un de très discipliné. Non, Fabien, c'est quand même quelqu'un qui est plus. C'est pas un problème d'époque, je te parle. Parce que tu nous demandes la question. Non, mais Claude, t'es fort.
Ah, mais ça prend pas sur des à côté.
Oui, alors.
Ah, mais non, mais t'es obligé de dire les à côté. Parce que moi, c'est.
Non, la différence, c'est qu'à Man United, il y avait un gars qui s'appelle Alex Ferguson qui blague pas. Qui est binaire. Ça veut dire, tu peux passer du top de sa liste à zéro. C'est quelqu'un qui a dégagé Fabulous Fab d'un coup. Il a dégagé Roy Keane. Il a dégagé Ruud van Nistelrooy. C'est quelqu'un, d'un coup, il peut tourner et il te le dit directement, je veux plus toi dans le club, je veux plus toi dans l'équipe. Et c'est ça qui s'est passé.
Non, mais attends, quand tu parles de Van Nistelrooy, déjà, quand tu parles de Van Nistelrooy, je le veux plus. Faut que tu saches que Van Nistelrooy, il l'a pris blessé.
Boulard, restons sur les gardiens de but. Passionné de
Si tu veux, tu veux savoir, je connais pas.
Boulard, on y reviendra plus tard sur Van Nistelrooy. Merci. Il y a Anto qui voulait revenir. Il y a un but, nouveau but. Oula, ça dans tous les sens.
Visiblement.
Richarlison. J'ai bien l'impression, ouais. Mais après, pour revenir sur...
La balade des chances heureux, quand même 3-0 pour le Brésil.
C'est Richarlison.
Après 30 minutes de jeu, qu'est-ce qu'on fait? On éteint la télé, ça se passe comment?
Oui, c'est ça, je pense qu'on peut faire ça.
Non, il faut jamais...
Après pour revenir sur Lloris, je pense qu'on oublie de le souligner beaucoup. C'est quelqu'un de très humble, très très humble. Toujours mettre en avant ses coéquipiers, jamais lui. Après aussi, on l'a vu combien de fois? Mais combien de fois il a poussé des gueulantes dans les vestiaires?
Ah, notamment à Tottenham, il a failli se battre
avec Son. Et même en équipe de France, avec l'Euro et encore la Coupe du Monde, combien de fois il a poussé des gueulantes? Combien de fois il nous a sauvés en 2018 face à l'arrêt monstrueux, je crois que c'était contre l'Argentine ou l'Uruguay, où il est sur sa ligne en horizontal? Ouais,
exactement, mais.
Mais Lloris, c'est quelqu'un de très, très explosif.
Par contre, faut pas oublier Anto est niçois.
Ouais, même à Nice.
Anto, il l'a connu quand il avait 18 ans, quand Antonetti l'a lancé dans le grand bain.
Bien
parce
sûr.
Que c'est de mettre un gardien de but à 18 ans, Je sais pas si, encore, si je me trompe.
Non, c'est ça. Surtout son rêve à Lloris.
Vas-y, Anto, le Niçois, on t'écoute.
Là, j'essaie de faire un peu abstraction, mais le rêve de Lloris, exactement, c'est de revenir à Nice à la fin de saison. Ça, il l'a dit, il le dit pas très ouvertement, mais il le dit pour sa fin de carrière.
Là, c'est une info.
C'est une belle info en plus.
Non, mais pour sa fin de carrière, après, il l'a dit pas de manière très explicite.
Ouais, revenir à la maison.
Mais exactement, finir sa carrière, pourquoi pas à la maison.
Alors, une question de Malik. Lloris aurait-il les épaules d'évoluer dans un club comme le Real Madrid ou le FC Barcelone? Est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il aurait eu les épaules?
Comme ça, je dirais que oui. Enfin, on parle de quand même quasiment 300 matchs en professionnel en France, dont 200 avec Lyon, qui est pas une petite équipe. Plus de 400 matchs avec Tottenham en première ligue. Une constance, voilà. Comme disait Boula tout à l'heure, il est toujours décisif, toujours concentré. Donc oui, très clairement, oui.
Oui, pour encore peut-être un ou deux ans. Oui, pas plus.
Et ma deuxième question, non, c'est...
Moi, je pense que...
Oui, Boula, vas-y, rapidement.
Je pense que... je réponds à la question de l'auditeur. Pour moi, Hugo, je pense qu'il a, à un moment donné, dans sa carrière, il a pas, à un moment donné, essayé d'aller dans des grands clubs.
Est-ce qu'il aurait pu, justement?
Moi, je pense qu'il aurait pu. Je pense qu'il y avait même, à un moment donné, Paris, moi, sur des discussions, j'étais chaud pour qu'il vienne à Paris. Parce que après j'avais discuté avec des gens, ils me disent ouais mais bon il est très, tu vois, dans sa façon de travailler, il est très à un moment donné il y a son papa, tu vois, il y a Stéphane Courbis, tu vois, à un moment donné Stéphane Courbis qui le gérait,
donc un environnement qui lui aurait peut-être
je pense qu'il lui a manqué une personne qui l'accompagne dans un grand club, et je pense que cette personne il l'a pas eu. Mais C'est vrai que le seul truc qui lui manque, c'est un grand club. Je suis d'accord avec sa question. Elle est juste, sa question. Parce que quand tu vois Hugo, c'est quelqu'un quand même que, moi, pour moi, il a un aura de grand gardien du, et je pense qu'aujourd'hui, pourquoi il fait pas partie des meilleurs gardiens au monde, je pense que c'est ce petit détail qui lui manque.
Lloris peut-être. Je reviens sur Fabien Barthez, hein, tu disais peut-être moins sérieux, je sais pas, que Lloris.
Non, pas moins sérieux, mais quand tu vois,
il débute au TFC à 17 ans quand même.
C'est vrai.
Et à 21 ans, il gagne la Ligue des Champions.
Non, mais t'as Fabien Barthez, le champion du monde avec la génération France 98. Après t'as quand même ça s'appelle, il a quand même 142 sélections plus ce qu'il a apporté aussi.
Oui, Barthez, c'est moins de 100 sélections. Je sais pas exactement combien,
mais c'est moins de 100 sélections. C'est 87 sélections. Ouais. C'est bon, champion du monde 98,
oui,
champion d'Europe 2000, finaliste 2006.
Barthez n'avait pas beaucoup. Barthez, c'est des périodes. Barthez, il est venu à la fin de Bernard Lama, et après il avait pas de concurrence jusqu'à ce que Coupé pousse. C'est-à-dire qu'il y a une génération. Là, par exemple, Maignan, il vient de sortir vraiment.
Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure.
N'avait pas de concurrence.
Lloris, si Maignan
était sorti il y a 3 ans,
Alors, justement, la question.
Parce que quand même, Lloris, faut pas oublier qu'il a mis sur le banc aussi Steve Mandanda, qui est aussi un des plus grands gardiens qu'on a jamais connu en France.
Non, t'exagères.
C'est pas la même catégorie, quand même.
Non, mais justement, c'est pour dire à quel point Lloris est.
La différence entre Steve et Hugo, c'est quand même quelqu'un. Sur la ligne, Steve, il est bon, mais dans l'intelligence, sur les corners, sur les jeux de corners, sur le timing quand il prend, sur la lecture. En plus de ça, c'est un matheux. C'est quelqu'un en maths, il est il calcule au millimètre. Dans l'intelligence, quand le ballon, il est en l'air ou en truc, il sait le timing qu'il doit prendre, il sait la lecture qu'il doit prendre. Et c'est vrai que Steph est un...
Justement, c'est ce que je dis.
Qui fait partie des bons gardiens.
Mais il n'y a jamais eu de discussion.
Ouais, mais ça, c'est depuis 16 ans l'équipe de France.
Tu regardes, il est parti de Marseille. Il est revenu direct. Hugo, il est parti de Nice à Tottenham.
Lyon.
Quand tu regardes Lyon, ce qu'il a fait et ce qu'il fait à Tottenham, pour moi, c'est... Bon, pour moi, Lyon, c'est quand même, et à l'époque, c'était vraiment un grand club.
Oui,
Lyon,
oui.
Quand il était là, il a gagné ses titres, et puis il faisait partie des meilleurs joueurs de Lyon avec Karim. Et quand tu regardes à Tottenham,
Boula, rapidement, parce que là, ça avance. Quid après la Coupe du Monde? Alors, on n'y est pas encore. On dit Maignan devrait prendre la succession de Lloris. On est tous d'accord qu'on a tous entendu ça avant le début du Mondial, comme une évidence.
Ouais, je sais pas.
Est-ce que vous verrez aujourd'hui Lloris dire bon bah c'est bon, je remets mes gants et.
Non, Alexis, tu détrompes-toi, détrompe-toi. Il est content.
L'instant T. On va attendre. Je pense pour répondre à cette question, il faut attendre la fin du mondial parce que tout va dépendre de la fin du mondial parce qu'après les critiques s'abattent et à la fin du mondial, on pourra vraiment répondre.
Moi, je pense que Hugo après la Coupe du Monde, il est très content d'avoir un gardien comme Maignan.
Ah oui, oui, ça.
Il est très content d'avoir un gardien
comme Maignan. Il a 35 ans,
quoi qu'il arrive,
il a pas non plus.
Il est très intelligent dans l'intérêt de l'équipe de France de passer, de dire j'arrête parce qu'on a un grand gardien derrière aussi. Et ça, ça va être. Moi, je pense que ça va être ses mots.
Ça va être ses mots en tout cas. On se retrouve dans un instant.
Time Sport revient dans un instant. 10-19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour sur Time Sport, Time Foot, et oui, spécial Coupe du Monde avec notre fil rouge ce soir. Il y a des buts.
Ouais, faut apprendre à compter ce soir. Hein. Donc ça fait déjà 4-0 pour le Brésil, but de Paqueta. Donc là, 4-0, 39e minute de jeu. Donc le match va sans doute encore être long pour les Coréens.
Je vous pose une nouvelle fois la question, est-ce qu'on quitte notre fauteuil pour mettre autre chose?
On peut rester à discuter, mais on peut éteindre, ouais, par contre.
Non, jamais.
Ça fait mal.
Jamais, c'est triste, mais ça fait partie du football. Il faut voir comment les Coréens vont réagir, comment les Brésiliens vont gérer. Le foot, c'est aussi ça, c'est des fois des scores fleuves. Il faut aller jusqu'au bout, on en apprend. C'est beaucoup de plaisir. Une Coupe du Monde, c'est que tous les 4 ans, on va voir chaque minute et on apprend toujours des rencontres.
Tout peut être possible, hein. Montpellier 4-0, Marseille 5-4,
98. Là, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une logique de résultat par rapport aux équipes qui restent. Quand t'as plus l'Allemagne ou t'as plus la Belgique, là, tu sens que les vraies équipes, ils se qualifient.
Ça monte en puissance.
C'est ça qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, hein,
on a une surprise demain, tout en espérant du Maroc. Contre l'Espagne.
Et ce sera encore, parce que je pense que parmi les équipes qui étaient censées être les moins favorites, pour moi, le Maroc, c'est ceux qui ont le plus de chance face à leur adversaire. Hein. Parce que tu prends l'Australie, ils ont rien fait. Les Sénégalais non plus. Les Polonais hier, rien du tout non plus. Donc c'est vrai que c'est dur pour les équipes qui sont soi-disant outsiders.
Ouais, on revient
sur le truc. Je vais finir sur le Maroc et l'Espagne. C'est vrai qu'il y a une rivalité entre les deux pays. Mais je pense que les deux peuples, il n'y a pas de problème entre les deux peuples, que ce soit même le peuple algérien. Même le peuple algérien par rapport au conflit, c'est plus des conflits politiques que des conflits de peuple. Aujourd'hui, c'est un sport. On doit à un moment donné être derrière ces trois équipes et on doit pas à un moment donné s'immiscer dans ces problèmes politiques qu'il y a à travers ce match. C'est les peuples n'ont rien à voir. Autant qu'il y a de l'amour de l'Espagne et l'amour des peuples marocains qui sont des gens très ouverts et tu peux pas à un moment donné mélanger la politique.
Maroc-Espagne, coup d'envoi demain 16h, on revient sur l'équipe de France vainqueur de la Pologne 3-1. Un mot sur peut-être Tchouaméni, le milieu de terrain.
Oui, moi j'ai une petite mention spéciale pour ce joueur parce que cette année s'est passé vraiment très très vite et il a répondu au rendez-vous d'une manière quand même surprenante et il faut lui rendre hommage parce que quand il est arrivé au Real Madrid, théoriquement il est arrivé pour être remplaçant de Casemiro et Casemiro est parti et il a fallu qu'il endosse ce rôle de titulaire au Real Madrid dans ce triangle sacré Modric, Kroos, Casemiro. C'était vraiment quelque chose de très compliqué, très
on se rend pas compte, mais ce que tu dis, Chéguil, c'est vrai, hein, acheter 80 millions, le Real champion d'Europe,
excuse-moi, il l'a fait. Et après, et en équipe de France aussi, là aussi, blessure, Kanté, Pogba, Deschamps lui dit, vas-y, je te donne les clés du milieu, vas-y, bien sûr, il y a Rabiot à côté, mais tu remplaces, tu t'es titulaire en équipe de France et tout, grosse équipe et tout. Et là encore, il est au rendez-vous et il est, on dirait qu'il jouait depuis 5 ans avec cette équipe. Alors j'espère qu'on va pas lui porter la poisse, que ça va continuer comme ça. Mais jusqu'ici, moi je suis bluffé. Ouais. Et franchement, bravo.
Non mais moi personnellement, je te réponds sur Tchouaméni. Tchouaméni, je le connais depuis l'âge de 18 ans. C'est un mec qui s'est imposé à Bordeaux. Ils l'ont vendu à Monaco 80 millions. Quand tu achètes un joueur 80 millions, c'est pas pour le mettre sur le banc. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est dans la négo.
Faut le dire à James.
Non, il y a pas ça. Non mais James a été une erreur. Après c'est tu me parles de James, moi je te parle de je te réponds à Tchouaméni. Il y a un truc qu'il faut savoir, Tchouaméni, s'il est là, c'est qu'ils l'ont payé 80 millions. Et pourquoi ils l'ont payé 80 millions? C'est parce que le Brésilien, il voulait un salaire que Florentino Pérez, il voulait pas payer. Voilà, il a pris le double de ce qu'il a demandé à Madrid, il est parti. Ça a arrangé
oui,
Florentino.
Oui, mais après, t'étais pas sûr que Tchouaméni, il arrive justement à passer le cap de pouvoir être sur le terrain, parce que je suis
Alexis,
d'accord
Alexis, quand
de
tu payes
Monaco,
Alexis, quand tu payes un joueur, surtout un club comme le Real de Madrid, quand tu payes un joueur à cet âge-là de 80 millions, c'est quoi 80 millions 80 millions
Non, enfin, je me rends pas bien compte.
Mais 80 millions, quand t'achètes un joueur, 80 millions d'euros, tu crois que tu crois pas en ce joueur?
Je te dis juste que peut-être que le joueur, vu que c'est quand même le Real, sans doute le plus grand club de l'histoire du foot, il va peut-être pas réussir à passer, tu vois, cette.
Tout de suite, non,
mais le Real. Pas tout de suite, voilà.
Le Real,
ça va lui prendre 6 mois.
Quand tu me dis, quand tu me parles du Real, le Real, c'est. Il y a des grands clubs comme Manchester United, aujourd'hui, peut-être qu'ils sont peut-être pas au top, et ils travaillent d'une façon qui est. Truc, mais il faut que tu saches, des grands clubs comme le Bayern ou comme le Real, ce joueur-là, il aurait réussi dans n'importe quel grand club avec le potentiel qualité qu'il a, ce qui nous a fait.
Ah, mais après, des fois, la tête, tu sais pas, tu peux avoir 6 mois où t'es un peu moins bien.
C'est un mec qui est bien entouré.
Rappelle-toi quand Karim il est arrivé au Real.
Non, mais Karim il est arrivé au Real, la chance qu'il a eu, Karim, c'est d'avoir un mec comme Zizou. Qu'il l'a cadré qu'il l'a cadré. C'est vrai que Mourinho lui a rentré dedans.
Avec l'histoire du chat, si j'ai pas de chien pour aller à la chasse, j'y vais avec un chat.
Mais le problème, c'est que t'avais Zizou, t'avais son grand frère qui était là. Et Zizou s'est beaucoup investi sur Karim. Bah, tu le vois. Et puis après, il a compris Karim qu'il fallait travailler.
C'est pour ça que je comprends ce qu'il dit chez Kip, c'est qu'au final, oui, d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'on l'a vu jouer en plus en Ligue 1 depuis des années, tu vois. Il est extraordinaire.
Il a crevé l'écran.
Ouais, carrément.
Moi, j'ai eu son agent, c'est ce qu'il m'a dit.
Mais t'es pas sûr.
Là, tu m'écoutes. J'ai besoin de personne pour faire Tchouaméni. J'ai tous les grands clubs au monde qui le veulent.
Oui, mais après, t'es pas sûr qu'il va répondre directement aux attentes au bout de 3 semaines.
Ce qu'il fait à Monaco et ce qu'il a fait en équipe de France, je le connaissais, le gamin, mais ce qui m'a impressionné. Tu crois que Deschamps, sachant qu'il a Tchouaméni et il a pas N'Golo Kanté, qui est un des meilleurs joueurs milieu défensif du monde, il est content aujourd'hui?
Ah oui, mais je pense pas, par exemple, s'il avait eu Pogba Kanté, je suis pas sûr que Tchouaméni aurait joué. Il aurait fait le banc.
Après, quand il appelle Patrick Vieira, Tchouaméni, quand il appelle Patrick Vieira et qu'il lui dit, tu vois, c'est son modèle un peu, parce que il est respectueux, il va demander à Patrick certains conseils par rapport à son avenir. Ça veut dire que ces jeunes-là, Tchouaméni, s'il réussit aujourd'hui, on l'a acheté 80 millions et il s'impose en équipe de France, c'est un môme, il sait ce qu'il veut.
Il y a des mômes
qui ont d'autres qualités.
C'est pour ça
que quand je réponds à l'équipe, bon, c'est pas pareil, parce que lui, il a une autre, il le veut. Moi, je connais par cœur son parcours et je connais par cœur tout ce qui se passe autour de lui. Maintenant, c'est peut-être un avantage, mais moi je trouve, pourtant c'est pas mon joueur, c'est pas un joueur que je gère, mais j'ai beaucoup de respect pour le gamin qui travaille à son niveau.
Ok, on a compris. Tchouaméni, meilleur milieu de terrain du monde, ou presque. Allez, on passe au débat des socios.
Time Sport. La parole des socios.
Cet après-midi, il y a eu un match entre le Japon et la Croatie, un partout. Victoire des Croates au tir au but.
Au tir au but, ouais, avec des super parades du gardien qu'on a sorti 3. Le match était assez neutre. En vérité, le match nul était plutôt mérité, même si les Croates, ils ont eu un petit peu plus d'occasions, mais sans cadrer, ils ont eu beaucoup le ballon aussi. Alors attention.
Comme souvent avec les Croates,
voilà, ça ronronne un peu, ça joue au ballon, mais ça, devant, c'était pas, parce que je crois que c'est 4 tirs cadrés pour chaque équipe, donc c'est pas non plus extraordinaire, mais ouais, le gardien qui a fait des gros arrêts. Après, c'est vrai que les Japonais ont pas hyper bien tiré non plus, donc dommage pour les Japonais qui avaient fait un très bon début de compète. Et puis les Croates, maintenant, va falloir essayer de gagner sans les prolongations, s'ils veulent pas se retrouver comme en 2018, arrivé avec 3 prolongations dans les jambes et se prendre une valise en finale.
Maeda avait ouvert le score pour le Japon, 43e égalisation, Ivan Perisic. Et puis ensuite, à la 55e, il ne s'est rien passé jusqu'au tir au but. Et donc, 3 arrêts du portier croate.
Boulard. Celui qui m'impressionne, chez les Croates, c'est Modric. À son âge, ce qu'il fait à Madrid et ce qu'il fait en Coupe du Monde.
Parenthèse par rapport à l'acclimatation de Tchouaméni Express, Modric, lorsqu'il arrive au Real Madrid, les socios veulent qu'il retourne à Tottenham. C'est-à-dire qu'il est considéré comme l'un des transferts les pires de l'histoire du club. Et regarde, tu as la réponse aujourd'hui.
C'est-à-dire que le pire.
Modric, c'est la première passé au la, début. Ah ouais, ça s'est pas bien passé du tout.
L'un des pires transferts. Mais le Madrid.
Non mais attends. Moi, écoute-moi. Connaissant les qualités du petit de Tchouaméni, maintenant les socios. Maintenant, le problème des socios, c'est eux, ils ont, c'est normal, ils ont un côté critique par rapport à la somme. Mais moi, la différence, c'est qu'aujourd'hui, la formation des clubs, que ça soit des mecs comme Florentino Pérez, il a pas le temps. Il a pas le temps pour construire son club de prendre un gamin et de le lancer. Aujourd'hui, c'est plus
on
facile.
Est d'accord.
C'est après, plus après, facile de prendre.
Exemple, il l'a fait, par exemple, avec Camavinga, où il l'a pris pour.
Non, mais Camavinga, regarde, tu regardes, il est pas, c'est pas encore un titulaire indiscutable.
Justement.
Mais la différence, c'est que Camavinga, il a payé 25 millions. Tandis que quand il prend Tchouaméni, aujourd'hui, le club, Quand ils prennent ce joueur, je me dis, ils ne seront pas. C'est des mecs.
Ah non, mais moi, justement je disais pas du tout qu'ils se trompaient.
Moi, personnellement, je suis pro-français, je suis content du produit français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu payes ce joueur, c'est 80 millions. Si tu payes 80 millions, maintenant, les socios, ils sont là.
Même à cet âge-là, selon moi, tu n'as aucune garantie. Moi, je suis très content qu'il ait réussi et ça montre que c'est encore plus un joueur.
C'est vrai, mais est-ce qu'on peut revenir sur la Croatie et Boulaye?
Oui, pardon. J'ai mis une parenthèse. J'ai mis une parenthèse.
Sur qui, Boulaye?
C'est lui qui a bifurqué. Chez Kiv.
Modric, il a énormément de qualités, mais une de celles que j'apprécie le plus, c'est une qualité de vrai champion qui est la capacité de rebond. Et effectivement, quand il est arrivé à Madrid, il a raté un peu sa première saison, les gens le voulaient dehors. Après, il a eu une capacité de rebond et il s'est imposé que c'est une grosse légende. Et après un moment, vers la fin de l'ère Zidane 1, les gens disaient que le Real Madrid et que le milieu du Real Madrid était vieillissant, que Kroos, Modric, Casemiro ont fait leur temps, il fallait les remplacer. Et là encore, Modric, il a une capacité de rebond à nouveau, que comme Kroos et comme Casemiro, ils sont réapparus de nouveau. Et c'est pour ça que c'est admirable. C'est vrai que Kroos, des fois, tu le vois jouer, Modric, t'as l'impression que c'est une petite vieille et tout. Mais à l'intérieur de lui, il carbure, on dirait qu'il a trois
cœurs. Ça a été encore le meilleur croate sur le terrain aujourd'hui.
Une intelligence de jeu extraordinaire. Je pense même qu'il a eu le ballon d'or, mais moi, j'estimais être quand même sous-côté par rapport à d'autres milieux de terrain que j'ai entendu de sa génération.
D'ailleurs, juste une petite chose. Sur sa main d'or, moi, j'avais tweeté un an avant qu'il avait le pot, un an et demi avant, qu'il avait vraiment le potentiel et qu'il pouvait prendre un des ballons d'or au moment où le ballon d'or appartenait que à CR7 Messi. Les gens sur les réseaux m'avaient allumé et finalement il l'a eu. Et c'est vrai, c'est un génie. Il est vraiment très, 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 très fort et je voulais lui rendre hommage.
Par contre, c'est pour Anto, je veux lui signaler un petit qui est à Nice, qui s'appelle Reda Belayen, qui a le même profil que Modric.
Exactement, mais il joue à plus avec la réserve, c'est assez dommage, c'est qu'il n'est pas assez mis en avant dans l'équipe première.
Mais Anto, il faut que tu saches que ce joueur, il a signé pro à l'âge de 16 ans, c'est un ami à moi qui le gère, et je connais très bien le recruteur qui l'a fait venir à Nice, qui a tout fait pour le faire venir à Nice, et sache qu'il a fait, en match amical, il a été exceptionnel contre Benfica, et Didier Digard adore ce petit, et Didier Digard est monté chez les pros.
Il
dit bien que ce petit Reda, le potentiel du petit, il a plus rien à faire en N3, ça. Et là, ils sont partis en Espagne. Exactement. avec Daouda, voilà. Est-ce que je connais bien Nice, Anto?
Ouais, bah oui, quand même.
Bon, revenons sur, Japon-Croatie, merci.
Voilà,
pour la parenthèse, chez Kib, pour reprendre.
Bravo à eux, parce qu'ils sont encore en rendez-vous, ils arrivent à passer. Effectivement, tout à l'heure, on expliquait Japon-Croatie, que la Croatie n'arrivait pas à se détacher. J'ai l'impression qu'ils sont encore un peu orphelins de Mandzukic et tout, et qu'il leur manque ce finisseur-là.
C'est vrai que Perisic a fait un bon match au Modric, mais c'est vrai que ça manque, t'as raison, de. Ouais,
exactement.
Du profil
mais
qu'il y avait.
Malgré tout, Mandzukic, il reste très, très solide. Et là, le héros, parce qu'il fallait qu'un héros sauve. Et tranche, et finalement, ça a été le gardien.
C'est Livakovic
qui a mis le masque.
Ce qui est marrant, c'est qu'on parle souvent de la Belgique comme vieillissante, enfin d'une génération. Quand je regarde l'équipe croate, la moitié évolue depuis quasi 10 ans en sélection.
La Belgique, c'est le sélectionneur.
Voilà, exactement. Faut pas être. Non, mais la mentalité qu'il y a. Tu sens qu'il y a une mentalité
différente
à Croate. Et tu as vu les conflits avec dans le truc. Je pense que l'entraîneur, c'était en Belgique, c'était pas la même situation. Par contre, je tiens à féliciter aussi le Japon qui s'est fait éliminer, qui nous a fait une super prestation en Coupe du Monde, parce que ça et qu'ils ont pas perdu, qu'ils ont fait
un partout, mais je trouve qu'ils nous ont fait, ils nous ont fait plaisir aussi, les Japonais.
Le Japon qui a battu l'Espagne et l'Allemagne, hein, c'est
pour
ça.
Pour la Belge, je mangerai des sushis à.
Mais dans le même esprit aussi, un petit mot quand même, on pourra dire une mention spéciale ou honorable pour nos amis sénégalais qui n'ont pas démérité hier contre l'Angleterre, qui perd 3-0, c'est dur, mais ils ont fait aussi un très bon mondial et voilà. Donc
rapidement, déçu du Sénégal quand même hier ou pas?
Déçu, oui et non, parce que on s'attendait pas non plus, surtout sans Sadio, on s'attendait pas non plus à ce qu'ils gagnent le mondial. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils avaient, hier, franchement, ils avaient vendu chèrement leur peau. Les Anglais ont pas fait non plus le match du siècle, et je trouve que c'est, ils auraient sans doute perdu ce match quoi qu'il arrive, mais 3-0, je trouve que c'est cher payé.
Mais c'est Bellingham qui leur fait, c'est le Bellingham qui leur fait mal.
Oui, moi, je suis pas déçu, je suis triste. Il y a une différence entre déçu et triste. Je suis triste parce que bien sûr, moi, j'étais pour l'équipe de France et les 5 pays africains, mais je suis pas déçu parce que je savais qu'ils allaient perdre, parce que on avait parlé même ici et j'avais eu des petites tensions même avec certains collègues et tout, qui me disaient non, n'importe quoi et tout. Effectivement, le Sénégal, c'est une très bonne équipe, une génération en or, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginez cette Argentine sans Messi, cette équipe de France sans Mbappé, et le Sénégal sans Mané, ben c'est sans le Mané.
Sans Gana Gueye hier, voilà, qui était suspendu.
Voilà, déjà, c'est ça la différence, c'est que des sélections comme le Sénégal, si tu enlèves les meilleurs joueurs, t'enlèves Mané déjà.
Bien sûr.
Ils vont en huitième sans lui, c'est pas mal. Sans Gueye, qui est quand même le métronome du milieu de terrain.
Après, il faut féliciter Alou, qui fait un travail exceptionnel, qui a gagné la Coupe d'Afrique, parce que faut quand même. Le Sénégal, c'est quand même un grand pays de football.
Bien sûr.
Et ça reste quand même ce qu'a fait Alou. Et je regarde les 20 premières minutes. C'est eux qui marquent d'entrée,
il n'y a pas photo.
Si c'est le mec qui perd le ballon là, que Bellingham récupère, ils ont joué en contre, ils ont pas joué au football des Anglais.
Exactement.
Je pense que Alou a plus pressé, ils ont plus pressé pour essayer de jouer le Sénégal. Puis bon, il sort avec des honneurs. C'est vrai qu'ils perdent 3-0, mais bon, ça vive le Sénégal et vive
pas là. Une pensée à eux fort.
En tout cas, ça sera France-Angleterre samedi à 20h. Nos amis anglais, le Brésil, c'est la balade des chances heureux. 4-0 face à la Corée, et c'est pas terminé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain 19h30, 21h, Time Sport.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.